Adam Vachko, bonjour.
Bonjour.
On s'est interrogé en août dernier sur les raisons de la victoire éclair des talibans. Certes, ils n'ont pas eu besoin de mener beaucoup de combats militaires car l'armée formée par les Occidentaux et entraînée a vite rendu les armes. Mais la question que l'on se pose à la lecture de votre livre est la suivante. Finalement, les talibans n'avaient-ils pas déjà conquis les esprits? Sans doute pas dans les villes, mais dans les campagnes, avec la mise en place de ce que vous décrivez dans votre livre, ce système judiciaire. Est-ce que c'est un élément clé dans la reconquête rapide du pouvoir par les talibans à laquelle on a assisté ces dernières semaines?
Oui, les talibans ont gagné la guerre par les armes, mais ils l'ont aussi gagné par le droit. Ils se sont implantés dans les campagnes en produisant leur propre système de tribunaux et en résolvant des conflits qui étaient d'importance première pour les gens, hein, leurs conflits fonciers, de démarcation, des conflits matrimoniaux, et qui leur ont permis d'obtenir une certaine popularité dans les campagnes, et surtout par contraste avec le régime que l'intervention occidentale mettait en place, qui se décrédibilisait par une justice profondément corrompue.
Il y avait effectivement une demande de droit dans la société afghane après toutes ces années de guerre ?
Très forte. Il faut bien se rappeler que la société afghane, c'est une société qui a traversé 43 ans de guerre civile depuis 1978. C'est-à-dire que quand l'intervention commence en 2001, les Afghans ont déjà vécu 23 ans d'autorités successives, de décisions contradictoires sur les conflits fonciers, de multiplication de conflits à la suite de disparition d'un proche, d'un père, d'un frère, où se pose la question de l'héritage, de conflits qui ont pris une dimension de plus en plus politique avec la multiplicité des groupes armés qui luttaient dans les années 80-90, puis à nouveau avec la milicianisation que provoquent les Occidentaux, les Américains en particulier, dans les années 2000. Et c'est dans ce paysage-là que la capacité des talibans à trancher des conflits, à imposer leurs décisions, a fait d'eux un mouvement qui, quelque part, répondait à une demande de droit et d'État, qu'en partie l'intervention occidentale a ignorée.
Alors vous avez mené des études de terrain entre 2010 et 2016. Ce fut l'occasion de rencontrer des notables du régime en place, mais également des juges et des combattants talibans. Il y a cette première phrase de votre livre qui illustre très bien ce que vous venez de dire. Elle est parlante. L'un de vos interlocuteurs, il est notable pro-régime en place à Kaboul et il vous dit « Ah non, les juges talibans, c'est autre chose. Ils sont bien ». Est-ce que vous pourriez nous décrire le système judiciaire mis en place par les talibans ?
Alors, il reposait sur des apparences rudimentaires, puisque les choses qu'on utilise généralement pour formaliser un système judiciaire, un bâtiment, un dispositif de mise en scène de la salle, un vêtement, étaient ici inaccessibles à un mouvement qui tentait de rester dans la clandestinité et d'éviter les opérations des forces spéciales. Mais il reposait en fait sur le fait que les talibans recrutaient leurs juges parmi les écoles religieuses Deobandi au Pakistan. C'est un courant religieux qui formait, c'est pas des écoles d'éducation primaire, c'est bien des instituts d'études supérieures en théologie et en droit islamique qui formaient des juristes. Et donc les talibans pouvaient compter sur un personnel déjà formé qu'ils n'avaient pas à former, qui était reconnu comme légitime dans les campagnes à juger, puisqu'ils avaient une maîtrise confirmée par un diplôme de droit islamique, et qui avait surtout une habitude de fonctionner comme une institution, comme une bureaucratie, une habitude de travailler avec du papier, une habitude de respecter les ordres. Et la justice que les talibans mettent en place, en dépit des apparences rudimentaires, elle est en fait très structurée avec des tribunaux d'instance, des cours d'appel, une cour suprême. Elle compte un système d'inspection qui sert à vérifier que les juges ne sont pas corrompus, et les deux cas de juges corrompus qui m'ont été rapportés ont abouti à des punitions. C'est un système qui faisait tourner les juges tous les 6 à 12 mois dans leur juridiction, parce que dans un contexte de conflit très localisé, eh bien, il était très important de garder une distance entre le juge et les gens qui faisaient appel à lui. Toute une série de dispositifs qui ont aidé à institutionnaliser, à formaliser ce système judiciaire et à assurer que les décisions des juges resteraient impartiales, extérieures autant que peut se faire au contexte local de conflit.
L'autre argument avancé par les talibans, c'était la vitesse de décision. Vous évoquez dans votre livre le cas d'une femme qui perd son mari et dont le beau-frère veut lui ravir les terres. Elle se tourne vers le Conseil des Anciens, elle n'obtient rien, vers le système mis en place par les Occidentaux, rien. Et c'est là, dans ce cas précis, les talibans qui régleront le sujet en très peu de temps.
Oui, et son cas est intéressant parce qu'il est à la fois exceptionnel et commun. Exceptionnel parce que cette justice talibane, elle est très défavorable aux femmes, non pas parce que ses règles le sont, mais justement parce que les hommes qui les appliquent, d'un seul coup, cessent exactement d'appliquer ces règles. C'est-à-dire qu'ils considèrent que, généralement qu'une femme qui fait appel à eux, eh bien, elle n'a pas tenté tous les autres recours, elle est quelque part responsable de ne pas avoir trouvé une autre manière de régler le conflit en famille. Et donc, c'est un système qui, de manière générale, est largement défavorable aux femmes, qui est moins accessible, qui a tendance à être très sévère dès lors qu'il punit des crimes dont la responsabilité est imputée à une femme. Néanmoins, du fait même qu'il est institutionnalisé, et cet exemple en est le signe, dès lors qu'une une femme se retrouve à pouvoir faire appel à un juge taliban et que le conflit sur lequel elle vient, elle apparaît comme la personne qui a été victime, eh bien ce système, par le simple fait qu'il soit aussi institutionnalisé, peut d'un seul coup être en sa faveur, c'est le cas de cette femme. Et la vitesse de jugement ici, elle est très importante parce que, un, elle contraste avec les tribunaux du régime, dont l'une des principales manières de faire payer les gens est en fait de les faire attendre aux différents échelons, à la plainte, à l'audience, au recours, à l'application de la décision par la police, ce qui fait que les gens sont toujours obligés de payer et finissent généralement par payer des sommes qui sont bien plus importantes que l'enjeu du conflit lui-même. Les talibans, par contraste, avaient une justice qui était assez rapide lorsque les cas n'avaient pas une ampleur politique, et cette rapidité, eh bien, elle était vue comme un signe d'intégrité.
Vous parliez de l'aspect très conservateur. Effectivement, la domination patriarcale est assumée par la justice des talibans. On pense bien sûr donc au sort des femmes afghanes et surtout peut-être principalement des femmes afghanes urbaines. Qu'est-ce qu'elles peuvent attendre de cette justice ?
Les femmes afghanes urbaines, en particulier des milieux éduqués, on peut attendre de cette justice. Elle sera pour elles particulièrement inaccessible. Les juges ont un regard sur ces femmes comme étant responsables de la corruption qui a sous-tendu le régime autant, voire plus encore que les hommes des milieux éduqués urbains. C'est une justice extrêmement patriarcale. Il aide l'autorité masculine dans les familles à se rétablir après 4 décennies de conflits armés.
On en a parlé un peu en filigrane. Il faut aussi expliquer ce succès des talibans en matière juridique par les lacunes du système qui avait été mis en place par les Occidentaux.
Oui, les talibans n'auraient jamais eu le succès qu'ils avaient. L'intervention occidentale est très bien accueillie par une grande partie de la population en 2001. Le succès des talibans est bien l'échec de la manière dont les Occidentaux ont fait de l'État. Et là, il ne faut pas se tromper, il faut arrêter de penser que les Afghans ne voulaient pas d'État. Aux élections de 2009, vous avez des lettres envoyées aux Nations Unies pour dire que l'élection est frauduleuse. L'élection évidemment frauduleuse de Karzai en 2009 est pourtant reconnue par les pays occidentaux, pourtant reconnue par les Nations Unies. Il en va de même dans le droit. Si les talibans montrent quelque chose, c'est que les Afghans voulaient un système qui est intègre, impartial. Ils demandaient fondamentalement une autorité étatique et ils ont reçu de la part des Occidentaux toute une série de dispositifs de contournement de l'État, de réinvention d'instances coutumières, d'instances tribales, de moments où des forces occidentales agissaient en dehors de toute forme de légalité, de législation afghane. La victoire des talibans, elle est d'abord le refus de la part des Occidentaux de réellement produire de l'État et de réellement mettre en place un ordre juridique, une législation qui s'applique de la même manière à tous.
Et on terminera par le défi que vous soulignez dans votre livre pour les talibans, ça va être de faire fonctionner cette administration parce que jusqu'à présent, ils avaient conquis un certain nombre de territoires, ils avaient récupéré le système administratif et les fonctionnaires étaient toujours payés par Kaboul. Cette fois-ci, ils sont donc les maîtres de l'Afghanistan. Ça va être à eux de financer toute l'administration. C'est vraiment un défi pour eux.
Oui, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les talibans sont en position de faiblesse, contrairement à ce qu'on imagine. Ils étaient en position de force au sens où ils étaient assurés de gagner la guerre depuis 5-10 ans. Aujourd'hui, ils sont en grande position de faiblesse parce qu'ils ne sont pas assurés de pouvoir gérer l'État correctement. Jusque-là, ils avaient les avantages d'une insurrection. Il leur suffisait de faire certains services très bien et de revendiquer l'application des choses qui étaient en pratique faites par le gouvernement, les écoles, les cliniques, les infrastructures. Maintenant, ils vont devoir payer tous les salaires alors que les fonds de la Banque centrale sont gelés par les États-Unis, alors que l'assistance à l'Afghanistan est dans les mains du FMI ne sera pas donnée tant que les talibans ne feront pas certaines choses. Les ONG se retrouvent dans une situation délicate de risquer de collaborer avec des gens qui sont sur les listes des Nations Unies d'accusations de terrorisme. C'est donc un nouveau régime qui va se retrouver dans un pays dont le système financier est exsangue, qui n'a pas les moyens de payer les salaires et qui va devoir pourtant gouverner et qui là va se retrouver face au véritable défi qu'avait le régime précédent, c'est-à-dire réellement gouverner une population afghane qui est passée en quelques décennies de 20 à 40 millions.
Et ce que vous nous dites, c'est que les Occidentaux ont finalement une marge de manœuvre.
Oui, les Occidentaux ont paradoxalement une marge de manœuvre parce que ce régime est fragile, parce que ce régime a besoin d'argent, d'assistance technique. Et donc, il y a la possibilité de faire des choses à condition d'avoir une stratégie cohérente, unie entre les pays occidentaux, qui passerait par des pressions très lourdes, de l'aide conditionnée, des lignes rouges claires qui imposeraient de limiter les reculs qu'on voit maintenant dans les médias, dans la place des femmes dans la société, dans la place des minorités dans la société. Les Occidentaux sont paradoxalement beaucoup plus puissants qu'ils s'imaginent l'être aujourd'hui.
Merci Adam Bachko.
Merci à vous.